Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les auteurs à succès qui ont signé les best-sellers, toutes catégories de l'année 2018, étaient réunis hier, le temps d'un déjeuner. Bernard Lehut était bien entendu à leur côté. Son reportage et beaucoup de surprises dans un instant. « Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans », disait Michel Delpech dans sa chanson « Quand j'étais chanteur ». Il aurait eu 73 ans en cette fin janvier à suivre. Les confidences de sa veuve Geneviève Delpech, elle annoncera notamment plusieurs projets au micro de Steven Bellery. Nous irons aussi à Giverny, le village de Claude Monet, et le théâtre de la bande dessinée RTL du mois de janvier, « Nymphéa noir », une adaptation du roman de Michel Bussy. On découvrira cet album avec Arnaud Mulpin. Et puis à la télévision ce soir, Secret Médical, c'est une nouvelle série britannique qui démarre sur Arte à 21h. Ce sera donc l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehut, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Hier, le magazine L'Express et RTL ont réuni les écrivains français les plus lus de l'année 2018 pour une photo souvenir, puis un déjeuner dans les salons de l'hôtel Lutetia.
Un rendez-vous créé il y a 19 ans maintenant et désormais incontournable. Alors l'un des intérêts de cette réunion de premiers de la classe est de rassembler des auteurs venus de tous les horizons, oui. Des romanciers bien entendu, des essayistes, des hommes politiques aussi, et même pour la première fois, un ancien président de la République en la personne de François Hollande, fort du succès de ses leçons du pouvoir, le livre bilan de son quinquennat. François Hollande qui s'est fait un peu attendre pour la photo.
Comment ça va ?
Ça va bien ?
Ça va ?
Et les trois best-sellers ? Asseyez-vous s'il vous plaît, président. Alors, là, oui, oui, oui. Ok, ok. Hilarant, peut-être même. Ok, attention, encore une fois ici. Génial, merci beaucoup.
Alors, sur la photo, oui. À droite de François Hollande, posait l'inévitable, l'incontournable Amélie Nothomb, que l'ex-chef de l'État croise régulièrement à la célèbre foire du livre de Brive.
Je lui dis que vous étiez donc la reine de Brive, que je n'en étais que l'occupant politique, donc je suis très heureux qu'on se retrouve là.
Franchement, avouez que la vie est extraordinaire. La première fois qu'on s'est rencontrés, est-ce qu'on se serait douté qu'un jour on serait ensemble sur la liste des best-sellers ?
Moi non, vous saviez que vous y étiez déjà dessus, mais à charge de revanche pour d'autres activités alors à ce moment-là.
Écoutez, hein. C'est la seule fois de ma vie que je pourrais dire ça à François Hollande, j'aime rencontrer un petit jeune qui débute.
Voilà, et moi une grande dame, qui est toujours jeune, voilà.
Alors avant de passer à table, les apartés se nouent et dans un coin du salon, alors une sacrée triplette, trois as des ventes. Je crois que cette année, à eux trois, oui. Avec leur roman, leur nouveauté de cette année, ils dépassent largement le million. Guillaume Musso, Joël Dicker et le lauréat du dernier Goncourt, Nicolas Mathieu.
Je les connais par leurs livres, mais je ne les connaissais pas personnellement. Et c'est ce que je disais à Guillaume Musso, je dis, ces histoires de ventes, c'est un peu comme le bowling, faire un strike, c'est facile, c'est les mettre... les aligner les uns au bout des autres, qui est compliqué. Et puis j'ai surtout entendu beaucoup parler de Joël en faisant la tournée du Goncourt des lycéens, où il a laissé un souvenir très très vif.
Oui, il paraît.
J'espère que c'est plus les mêmes, parce que ça veut dire que... ils ont retapé depuis quelques années, là.
Vous êtes filé des conseils, là, d'écriture entre vous non, les écrivains pratiquent ce genre d'exercice ou surtout pas?
Enfin, moi, je me garderai bien de leur en donner, puisque je suis frais et moulu dans cette catégorie. Je ne sais pas si j'y resterai longtemps, non.
Si écrire était une science, tous les éditeurs et tous les auteurs seraient très contents.
Oui, il y a toujours cette fameuse phrase de Somerset Maugham, « Il y a trois règles pour écrire un roman, malheureusement, personne ne les connaît.
» Et à propos de roman, Guillaume Musso vous a fait quelques confidences sur son prochain.
Oui, la vie secrète des écrivains qu'on vous a annoncé ici, oui. Même la semaine dernière. Il aura, on l'avait déjà dit la semaine dernière, pour cadre une île de la Méditerranée, mais une île imaginaire.
Absolument, c'est une île qui s'appelle l'île Beaumont et que j'ai pris plaisir effectivement à créer. Et c'est le personnage principal, c'est un écrivain américain qui, depuis 20 ans, n'a plus écrit et qui, justement, vit sur cette île. Et un jour, une jeune journaliste qui débarque sur l'île, bien décidée à percer les secrets de cet écrivain.
Une espèce de Salinger, non ?
Ça a été effectivement l'une des sources d'inspiration pour construire cet écrivain-là.
L'auteur de La Trappe-cœur, évidemment. Qui est l'un des auteurs que vous admirez, Guillaume Musso ?
Que j'ai lu effectivement assez jeune. Et je dirais c'est plus sa trajectoire et son désir comme ça de fuir le monde qui m'ont passionné autant que La Trappe-cœur.
Rendez-vous le 2 avril pour découvrir le nouveau Guillaume Musso. Joël Dicker, papa d'un petit garçon depuis à peine 15 jours, nous a révélé de son côté qu'il publiera le 20 mars un conte qu'il avait écrit à l'âge de 19 ans. Ça s'appelle « Le Tigre ». En mars, on lira Delphine de Vigan également, de retour en librairie. L'auteur de Rien ne s'oppose à la nuit, tout heureuse hier de retrouver Isabelle Carré, couronnée par le Grand Prix RTL Lire l'an dernier pour ses débuts en littérature avec son roman « Les rêveurs ».
On commence à se connaître.
Ouais. On se connaît et je crois qu'on s'apprécie pas mal.
On est heureuse de se retrouver là, ouais, vraiment.
Est-ce que vous lui avez donné quelques conseils, par exemple? J'allais dire l'ancienne Delphine, mais en tout cas l'expérimentée, pardon.
Non, je me permettrai pas.
Si, on a dit si. Tu m'avais dit une petite chose qui m'a, enfin, comme que, qu'il fallait la méthode de la pâte à crêpes, laisser reposer 3 semaines minimum.
C'est vrai. C'est souvent, oui, je conseille ça, de qu'il faut laisser reposer un texte avant d'y revenir et éventuellement de le montrer, etc. Je ne me rappelais pas que je t'avais dit ça.
Delphine de Vigan et Isabelle Carré. Retrouvailles complices encore entre David Fuenquinos et Jean Tellet. L'occasion aussi de faire des rencontres inédites avec des confrères inattendus.
Et lui, il est beaucoup plus beau. À chaque fois que je vais dans des salons du livre, il est toujours avec des jolies petites gonzesses autour de lui. Je ne vois pas ce qu'elles peuvent trouver à un mec comme ça.
Tu vas pas de moi, là, je crois pas que tu parles de moi. Hein. Tu vas confondre avec je ne sais pas qui. Bon, tout va bien ?
On pourrait être plus malheureux que se retrouver là.
Hein. Non, mais ce que disaient Jean, c'est vrai que c'était assez beau. En fait, on est content de se voir, tous les écrivains, et on se ressemble pas. Il n'y a pas de rivalité, pas de jalousie, parce que chaque univers est très, très différent, comme ça, voilà, en toute bienveillance.
Et ouais, puis c'est toujours un plaisir de rencontrer. Parce que moi, je ne sais pas, toi, tu en rencontres peut-être beaucoup, des écrivains, moi, je n'en rencontre pas tellement. Et tout à l'heure, on était avec Maxime Chatham, et on se disait que tous les trois, là, pour le coup, on fait vraiment des livres différents. Et alors, il n'y a aucun problème.
Mais en tout cas, cette année, c'est particulier, je crois qu'il y a presque tout le monde.
Et même mon idole, Pierre de Villiers.
Je vais vous présenter si vous voulez, Jean.
Allez. Les chefs, c'est bon, c'est mon truc.
Je peux vous interrompre. Et je discutais avec Jean Tellet qui avait envie de faire votre connaissance.
On m'a toujours dit que j'étais très indiscipliné et que j'aurais besoin d'un chef. Et j'ai vu que justement votre dernier livre parlait de ça. Donc si vous pouviez faire quelque chose pour moi, s'il n'est pas trop tard, il serait temps que j'accepte d'être dirigé à la baguette.
Écoutez, l'indiscipline, c'est pas incompatible avec l'autorité. Moi, je n'étais pas naturellement quelqu'un de très discipliné et pourtant j'ai terminé chef d'état-major des armées.
Est-ce que vous avez lu Jean Tellet déjà ?
Je vais être très franc avec vous. Je n'ai pas eu l'occasion d'en lire un attentivement, bon. Mais je vous assure que je vais le lire maintenant que je vous ai vu.
Moi, ce qui est drôle, c'est que sur mon prochain roman là, qui va sortir début mars, Garalou, j'ai 3 chefs de guerre et il y en a un où j'avais votre image pour décrire le personnage qui s'appelle Armand Mangebeuf de Boisjoli. Et dans ma tête, il vous ressemblait. Voilà.
Vous voilà devenu personnage de roman.
Alors là, du coup, là, je vais acheter le bouquin. Là, j'ai pas le choix.
Et oui, le général Pierre de Villiers, lui aussi best-seller en 2018 avec son essai Qu'est-ce qu'un chef ? Vous l'aviez reçu d'ailleurs, Yves, hein, je crois, ce même micro. Quant au nouveau roman de Jean Tellet, Gare à loup, il sortira début mars, un gros mois de mars en librairie.
Et on l'a entendu, hein, très joyeuse ambiance hier dans les rangs.
Ben oui, les écrivains habitués à travailler en solitaire savourent d'autant plus cette réunion annuelle orchestrée par l'Express avec RTL.
Les écrivains heureux, c'est très agréable à écouter et même à entendre. Dans un instant, Michel Delpech.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
J'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans.
C'est émouvant car Michel Delpech aurait eu 73 ans il y a quelques jours. Décédé il y a 3 ans, il n'aura jamais atteint cet âge qu'il avait mis en musique dans le titre « Quand j'étais chanteur ». Stéphane Bédry, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez longuement rencontré sa veuve Geneviève Delpech pour évoquer avec elle ses projets et ce classique de la chanson française.
Un tube de 1975, extrait du 5e album de Michel Delpech où il s'imaginait à la retraite. « Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter », s'amusait-il avant de lancer. « J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. J'ai fêté les années adieux de Sylvie Vartan. Ses prévisions se sont révélées fausses, ce qui n'enlève rien à l'incroyable modernité de la chanson. Geneviève Delpech.
Il l'a écrite avec son co-auteur Jean-Michel Riva. Ils l'ont écrite en studio, assez normalement. Il s'est vu vieux, il parlait d'un vieux chanteur qui avait pris du recul. Ça passe bien, 73, c'est moins bateau que 75. Il se projetait vieux et ça ne lui déplaisait pas l'idée d'être vieux. Il était transcendé quand il chantait, c'est ce qu'il préférait faire. Il disait « il faut savoir s'arrêter ». Je crois qu'il n'aurait pas pu. Il y a quelques petites anecdotes. Il a croisé Sylvie Vartan peu après la sortie de cette chanson qui lui faisait un peu la tête, qui n'était pas trop content d'être cité et faire ses adieux.
C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur.
Geneviève Delpech travaille depuis des mois à cultiver la mémoire de son défunt mari, Steven.
Oui, après un album de reprise par la jeune génération fin 2016, elle porte aujourd'hui un projet de spectacle autour du répertoire de l'interprète du Chasseur et du Loir-et-Cher, le département qui soutiendra d'ailleurs cette comédie musicale dont les castings vont démarrer dans peu de temps.
Elle se fera dans une belle salle à Paris, ça avance. C'est l'histoire d'un jeune, évidemment. Alors Michel sera représenté par au moins trois hommes, un jeune, moins jeune et plus âgé. C'est son histoire. Histoire, mais on va broder tout autour certaines choses. J'ai pas donné tellement de consignes. La personne qui est en train d'écrire, enfin de terminer, c'est quasiment fait. Et quelqu'un qui adorait Michel, c'était son premier fan, et je lui ai fait confiance et je suis pas déçue. Pour le moment, il y a une vingtaine de chansons retenues. Écoutez, j'espère quand même que fin 2019, 2020, cette comédie musicale sera présentée au public.
Rendez-vous donc dans une grosse année pour découvrir ce show.
Autre idée, Geneviève Delpech révèle ce matin sur RTL l'existence d'inédits de Michel Delpech.
Oui, une vingtaine de chansons restées secrètes jusqu'à aujourd'hui.
Alors il y a un projet pour lequel j'hésite énormément. J'ai des chansons inédites qu'il avait enregistrées, qu'il n'avait pas voulu sortir parce qu'il ne trouvait pas le travail parfait, accompli. Et ça me pose un problème de conscience parce que quand il enregistrait, il était rarement satisfait. Il a accumulé effectivement des chansons qui ne sont jamais sorties. Personnellement, je trouve très belle. C'était un perfectionniste, il lui fallait beaucoup de temps pour écrire, beaucoup de temps pour se décider, beaucoup de temps pour enregistrer. Alors, il y a environ deux albums qui ont été faits à deux périodes très différentes, un plus éloigné et un plus récent.
Voilà. Ça doit être très émouvant pour vous d'écouter ces chansons.
Je ne peux pas, pour le moment, encore les écouter. Je ne peux pas écouter Michel, ça m'est très, très, très difficile.
Geneviève Delpech veut se laisser le temps de la réflexion. Elle veut consulter des amis artistes pour savoir si oui ou non elle sortira ses chansons.
C'était quand même un des plus jolis timbres de voix de la chanson française. Merci de nous avoir fait passer ce moment avec Michel Delpech et le témoignage de son épouse Geneviève était très émouvant. Merci Steven Bellery. Et on va tout de suite parler de nos audiences télévisées de la veille avec Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien écoutez, Esprit Criminel, ils ont vraiment bien fait de changer New York Unité Spéciale et de le remplacer par Esprit Criminel, puisque cette série fait quasiment le double, avec 4 300 000 téléspectateurs sur la une, 19% du public devant Philharmonia, qui s'en sort pas mal, 3 200 000 personnes étaient sur la 2, 14% du public, et Des Racines et des Ailes fait plus que sa moyenne, avec 2 600 000 fidèles et 13% du public, c'est toujours présenté par Carole Gessler.
C'était une très belle émission, un très beau numéro.
Adoré. Et alors M6 garde tous ses fidèles, et alors côté TNT, c'est Burger Quiz TMC, logiquement, qui est en tête, 860 000 téléspectateurs.
Alors, on signale maintenant la première diffusion ce soir, hein, en clair, sur M6 de la comédie Un homme à la hauteur, avec le couple Jean Dujardin, Virginie Efira, et en face, sur la 2, un envoyé spécial avec une enquête sur les mères porteuses sur Internet.
Oui, une sorte de catalogue Internet de vente par correspondance. On rappelle qu'il est interdit en France de faire appel à une mère porteuse, mais de nombreux couples, en tapant tout bêtement mère porteuse sur Internet, eh bien, trouvent une kyrielle de jeunes femmes offrant, si j'ose dire, leur service et leur vente contre argent tout de même. C'est le cas de Marie et Jérôme, surpris de l'abondance de l'offre.
Je suis brune aux yeux verts et non fumeuse. Je suis à la recherche d'un couple gay ou hétéro pour vous aider à réaliser vos rêves de bébé. On tape l'annonce et puis on arrive à trouver très facilement, comme le bon coin avec la voiture.
Eux avaient trouvé la perle rare, mais elle avait eu des problèmes de dos interdisant toute grossesse. Ce procédé avait en revanche marché pour Fabien et Thomas, parents aujourd'hui d'une petite Sarah. Mais on est médusé en voyant l'enquête de constater le nombre de jeunes femmes en état de précarité ou tout simplement désireuses de s'enrichir qui pensent trouver là un nouvel Eldorado. La preuve avec Alexandre et Anthony, fiers de leur lien d'amitié avec la mère porteuse qu'ils avaient contactée, sauf que...
Tout était fait, tout. Il y avait ses doudous, ses peluches.
Ben, en fait, on était sur la route en direction de la maternité quand on a pris l'accouchement. Et sur la route, la mère porteuse nous a appelés. Elle nous a dit « Votre fils est mort, de but en blanc. » Grâce à ma belle-mère, parce qu'elle a fait ses recherches aussi, on a appris que un autre homme est parti avec notre fils.
Aujourd'hui, le lien qu'on a, c'est aucun part avec une photo et c'est tout.
Alors la jeune femme avait également fait affaire, je vous explique, avec un couple d'hétéros à qui elle a donc finalement donné le bébé. Alors qu'Alexandre est bien le père biologique et qui plus est, il est poursuivi pour avoir fait appel à une mère porteuse, puisque c'est illégal. Et donc c'est là vraiment la double peine. Et 2 ans avant, elle avait déjà fait le même coup, si j'ose dire, entre guillemets. C'est terrible, la suite d'un envoyé spécial sur la 2. Une bonne enquête, on peut simplement déplorer quelques gros plans inutiles sur le journaliste.
Vous avez également apprécié la nouvelle série d'Arte, ce qui s'intitule « Secret médical ».
Oui, le titre signifie que l'héroïne a un secret et qu'elle est dans le milieu médical. Le pitch, eh bien, il s'agit de Cass, une jeune infirmière choquée par les maltraitances qu'elle constate dans l'hôpital où elle travaille. Elle décide donc d'alerter le comité d'éthique de son établissement. Mais on le sait, le premier qui dit la vérité...
Cette histoire met l'hôpital dans une situation très délicate. Ces accusations de négligence...
Il y en a d'autres dont je peux fournir les détails.
Ce comité ne voit aucune raison d'enquêter davantage sur ces plaintes.
D'autre part, il y a eu des commentaires à votre sujet de la part d'autres membres du personnel.
Vous plaisantez ?
Ces 6 derniers mois, nous avons reçu 3 rapports différents faisant état de brimades et d'intimidations.
Qui est venu se plaindre ?
Ils ont le droit à l'anonymat.
Voilà. Elle a dénoncé, elle est virée. Et démunie entre une fillette à élever et un ex-mari qu'elle nourrit, c'est alors qu'intervient un événement imprévu. Le départ de sa meilleure amie, une brillante médecin urgentiste qui quitte le métier et le pays pour épouser un éleveur.
Vous allez tous me manquer. Mais bon, quand un éleveur de moutons aussi sexy que nous demande de l'épouser, vous ne dites surtout pas non. Et s'il y a bien une chose qui ne va pas me manquer, c'est mon horrible métier. Alors je tiens à dire au revoir à tous les ivrognes et aussi à tous les junkies, à ceux qui pleurnichent pour une entorse et à ceux qui pensent que le moment idéal pour se faire examiner est le vendredi à 23h30. C'est terminé. Que l'hôpital public aille se faire foutre.
Alors en guise d'adieu, elle offre sa garde-robe à caisse, si j'ose dire que ça chiffonne.
Je peux pas prendre tout ça.
Soit tu les prends, soit je les file à la recherche pour le cancer. Vends tout sur internet et avec le fric achète-toi une nouvelle jupe à la touffe si tu veux, je m'en fous. J'arrive pas à croire qu'ils aient osé te faire ça. Tu vas faire quoi maintenant?
J'en sais rien. Peut-être aide-soignante.
Mais t'es une infirmière géniale. T'as beaucoup plus de jugeote que la plupart des médecins que je connais, beaucoup plus de jugeote que moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit qui m'appartient, j'ai bien dit quoi que ce soit, je te le donnerai.
Eh bien justement, ça tombe bien, parce que notre caisse tombe également sur les diplômes de la fameuse copine et ça lui donne une idée. Si elle prenait son identité professionnelle pour commencer une nouvelle vie ailleurs par rapport en Écosse à Edinburgh. La voici postulant devant la directrice, alors émerveillée d'un tel CV, mais quand même dubitative vu que c'est un hôpital de seconde zone.
Je peux savoir ce que vous foutez ici?
Excusez-moi?
Il est vraiment très impressionnant ce CV. On peut dire que vous êtes un médecin hautement qualifié. Et voilà que tout à coup je vous retrouve à ma porte à me demander du travail.
Je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel.
Oui, mais pourquoi ici? Soyons honnêtes, nous savons toutes les deux que nous ne sommes pas ici dans un lieu d'excellence. Donc vous avez sans doute tué un patient, ou pire, vous avez emmerdé quelqu'un. Vous avez l'air d'être très doué, alors pourquoi ici?
Cette directrice est absolument formidable.
C'est drôle, oui.
Sans surprise, elle est donc prise. Commence alors un quotidien exaltant, mais tout de même fait d'inquiétude, à l'idée de blesser un patient et d'être elle aussi percée, mais à jour. Cette série britannique est réaliste, brillante, attachante et surtout admirablement jouée par Jodie Whittaker, qu'on a déjà vue dans Doctor Who et Broadchurch. Vous savez, elle était la mère de la petite victime. C'est tout, sauf cousu de fil blanc, ce qui est tout de même mieux dans un feuilleton médical. Bref, c'est à voir en urgence, forcément.
Et c'est sur Arte. Merci
c'est
beaucoup,
Arte.
Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, on va retrouver Arnaud Mulpa et les Nymphéas Noirs de Fred Duval et Didier Casgrain. C'est notre bande dessinée RTL du mois de janvier.
On va aller du côté de Giverny, non?
Ça ne sera pas désagréable.
RTL Matin, laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
On va faire une belle visite maintenant, puisqu'on va prendre la direction de Giverny. Avec vous, Arnaud Mulpa, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Le village de Claude Monet est en effet le théâtre de la bande dessinée RTL du mois de janvier, que signent donc Fred Duval et Didier Casgrain. Le titre « Nymphéa noire », c'est une adaptation du roman de Michel Buss.
Oui, énorme succès de l'année 2011, avec près de 600 000 exemplaires vendus. « Nymphéa noire », c'est le genre de polar où très rapidement, le lecteur abandonne toutes ses certitudes. On se croit dans un village de cartes postales. En fait, on est sur une scène de crime. Au petit matin, le corps d'un homme est découvert au fond d'un ruisseau. On pense que dans cette commune où tout le monde se connaît, l'enquête va être vite pliée. Mmh. On découvre que certains habitants renferment de lourds secrets. Il y a notamment trois femmes. La première était méchante, la deuxième était menteuse, la troisième était égoïste, écrit
bon,
l'auteur.
Bien.
L'une a plus de 80 ans, la deuxième 36, la troisième 11. C'est une fillette qui adore la peinture. Au pays de Monet, certains s'interrogent, est-ce que ce meurtre ne serait pas lié à une affaire de tableaux volés ou disparus? Les histoires s'imbriquent, les trajectoires se frôlent. Bon courage aux deux policiers envoyés sur place. Ce qui est sûr, c'est que Fred Duval n'a pas choisi le roman de Michel Bussy le plus simple à adapter.
Non, c'était même peut-être le plus difficile. Mais il y avait une réponse à donner à l'inadaptable que seule, je pense, la bande dessinée pouvait donner visuellement, hein, j'entends. Donc il fallait arrêter le temps sur Giverny, donc avoir des arrière-plans complètement intemporel, vraiment, vraiment proche de Monet, finalement, impressionniste. Et puis, dans ce décor impressionniste, flou, il fallait faire mouvoir des gens. Après, le plus difficile, c'était d'enlever des passages formidables du roman qui ne pouvaient pas tenir sur une pagination qu'on avait estimée quand même à 130-135 planches. Voilà, il fallait pas non plus faire quelque chose de trop, trop, trop long pour le dessinateur. Donc, voilà, le plus dur, c'était de retirer des choses. Les lecteurs du roman se souviendront de la collection de barbecue de Silvio que je n'ai hélas pas pu garder. Et ces jours-là, j'ai écrit à Michel en disant, écoute, les barbecues de Silvio vont sauter. Et il m'a répondu, c'est pas très grave, mais c'était une tellement belle idée dans le roman, mais qui n'est pas moteur.
C'est une jolie formule, hein, une réponse à l'inadaptable, hein, pour une bande dessinée. Alors on rappelle, la première était méchante, la deuxième était menteuse, la troisième était égoïste.
Alors certaines ont ça en une.
Oui, c'est vrai.
Et oui, le moteur, non. le moteur de l'histoire, c'est bien ces personnages féminins, la vieille qui semble espionner tout le monde. Que sait-elle? Qu'a-t-elle vu du haut de sa tour? Et Fanette qui aime tant peindre au bord du ruisseau. Et Stéphanie, l'institutrice, si belle, si douce, que cherche-t-elle à séduire l'inspecteur de police qui mène l'enquête?
Alors, c'est vrai qu'elle est vraiment très belle, cette Stéphanie, en tout cas dans sa robe à fleurs.
Ouais, Michel Bussy appréhendait un peu de découvrir ses personnages dessinés. Allait-il ressembler à l'image que lui en avait? Eh bien, il est aujourd'hui ravi.
C'est un peu ce que j'avais peur. C'est vrai qu'autant, bon, sur Giverny, je me disais qu'on peut avoir avec un bon dessinateur des images superbes, et c'est vraiment le cas. C'est vrai que sur Stéphanie, notamment, c'était pas évident parce qu'on pouvait être soit dans quelque chose qui pouvait être trop trop sexy, mais il fallait qu'elle soit extrêmement séduisante sans que ce soit du manara. Et du coup, je trouve que c'est formidable parce que les femmes que dessine Didier Casgrain sont à la fois extrêmement séduisantes, très belles, tout en ayant, il a sa patte, on les reconnaît tout de suite, et ça c'est très fort parce que voilà, elles sont pas parfaites non plus, elles ont juste du charme. Et il y a une façon de les dessiner, notamment dans la façon dont il fait ses plans, dont il fait ses gros plans, très bien. Et puis moi, là encore, je refeuillette les pages, et à chaque fois, notamment toutes les pages, ça raconte quand même une histoire d'amour. Et toutes ces pages-là sont très très belles et très, justement, très très épurées. Donc non, bravo, et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont tomber amoureux de Stéphanie. Ouais.
Il faut vraiment souligner le travail du dessinateur Didier Casgrain. Très souvent en bande dessinée, le dessin est fait à l'encre, en noir et blanc, puis mis en couleur grâce à l'ordinateur. Là, il a bossé chaque case comme un mini tableau, directement à la peinture acrylique ou à l'aquarelle, avec des teintes pastel, une ambiance impressionniste. Un travail d'un an et demi, il a laissé s'imprégner des lieux, de l'histoire, il l'a digéré pour en faire quelque chose de personnel, surtout pas en fait pour en faire du sous-Monet.
Oui, on appréhende sur la première planche, puis après on y va, quoi. On réfléchit pas, justement. J'ai pas cherché à me replonger dans les tableaux, au contraire, j'ai essayé vraiment d'oublier tout ça, quoi. Surtout pas me dire, quand j'attaque une ambiance, hein, une séquence, me dire qu'est-ce qu'aurait fait Monet à ma place. Enfin, ça aurait été un non-sens, et je me serais mis une pression de fou, et puis de se dire qu'on serait capable de refaire du Monet, faut être réaliste, quoi.
Voilà, Didier Casgrain, qui signe donc avec Fred Duval et Michel Bussy cette adaptation de Nymphéa noire. C'est la bande dessinée RTL de ce mois de janvier, l'éditeur Air Libre.
Monsieur, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il reproduit du coup au passage quelques tableaux de Monet, oui, comme le Caravage avait, le dessinateur du Caravage avait reproduit des tableaux du Caravage?
Il y en a quelques-uns dans les décors, notamment Impression Soleil Levant, mais non, c'est pas l'essentiel.
D'accord.
Il y a donc des allusions, si je comprends bien.
Et Michel Bussy, alors, qu'on va retrouver, son prochain roman sera publié le 28 février aux Presses de la Cité. Ça s'appelle J'ai dû rêver trop fort. C'est son 12e roman. Et il faut rappeler qu'il est le deuxième auteur le plus lu l'an dernier, derrière Guillaume Musso, avec près d'un million d'exemplaires. Et nous le recevrons en avant-première dans Laissez-vous tenter pour parler donc de ce prochain roman, J'ai dû rêver trop fort.
Ils sont incroyables, cette équipe de Laissez-vous tenter. Nous, on va se retrouver dans quelques instants et on aura le grand plaisir d'accueillir Julien Courbet et toute son équipe. A tout de suite. Merci d'écouter la Première Radio de France. Bonne journée à tous. De me faire une confidence, Hitler avait une goûteuse, lui a consacré un roman et vous allez nous en parler demain, Bernard Lehu.
Histoire vraie devenue un roman, écrit par une Italienne, énorme succès en Italie et qui arrive là en France. Je l'ai rencontré et donc on vous en parle demain.
Rendez-vous demain avec grand plaisir avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter. On retrouve maintenant Julien Courbet. Bonjour Julien.
Bonjour, qui est ravi parce que je fais partie d'une génération où nous n'avions pas de cours d'éducation sexuelle à l'école. Oui. Et grâce à vous le matin, j'en sais un petit peu plus. C'est ce que j'ai écouté ce matin. Et je sais que maintenant, comment je vais pouvoir satisfaire une compagne. Donc, je ne savais pas que tout se passait au niveau des parties génitales, mais Michel Simès nous l'a expliqué.
Vous les contractez, puis vous les décontractez, vous les prenez un par un. Et quand vous relâchez, vous vous concentrez sur le muscle en question.
Et il paraît que ça marche super bien. Donc merci. Et chaque jour, un petit conseil grâce à vous comme ça.
Et voilà, je suis très sensible au fait que vous releviez chaque détail de cette matinale.
En général, c'est l'heure où je me brosse les dents. C'est mon petit...
Ça vous rend créatif.
Ah, mais c'est mon petit moment de plaisir.
Ça nous fait à nous aussi plaisir. Faites-nous une belle émission.
Merci beaucoup. Salut. C'est parti.